Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc, pour moi, c'est un grand plaisir de venir faire cette conférence, en dehors du fait de l'affaire. Je pense, j'ai fait un petit sondage, il semblerait pas que cette histoire ait jamais été racontée au Creusot. Et ce serait la première fois que ça se fait. C'est une honte, je dirais, c'est une honte, puisque le nucléaire et le Creusot, c'est la conséquence de ce que je vais vous raconter. Donc c'est un scandale, une honte totale, si personne ne l'a jamais raconté. Donc c'est un grand honneur pour moi d'être dans la situation de faire cette conférence. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait cette conférence? Ça ne m'a pas pris comme ça tout de suite. C'est que j'ai préparé une autre conférence. Vous allez avoir un mailing qui va en parler, que je vais donner à Chalon le 19 mars. Lundi 19 mars, c'est-à-dire dans une petite quinzaine de jours, qui va parler du projet Manhattan, qui va raconter l'histoire du projet Manhattan, c'est-à-dire le développement de la bombe atomique par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est un océan. Donc vous venez avec vos cachets, si vous venez m'écouter, parce que là, c'est du lourd. Il y a beaucoup de choses à raconter. Et bon, puis j'en étais resté là. Et en recherchant des compléments, disons, pendant les vacances de l'année dernière, je suis tombé par hasard, en fouillant sur Internet, sur un livre qui a été écrit par le service historique de la Navy américaine, qui a été écrit en 1974. Et le voilà, je l'ai tiré en photocopie, ce qui n'existe pas en forme reliée, si vous voulez. Ou alors il existe aux États-Unis, je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai découvert à nouveau cette histoire qui est la continuité du projet Manhattan. Et alors là, c'est une histoire, Dallas, c'est de la gnognotte à côté. Hein. On peut dire avec le recul que si le bonhomme dont je vais beaucoup parler, l'amiral Rickover, n'avait pas été là, ça répond à la question. Le nucléaire civil se serait fait d'une manière ou d'une autre, mais beaucoup plus laborieusement, et à la limite, tout ce qu'on a vécu, par exemple, en France et au Creusot, même si tout ne vient pas des États-Unis, puisque il y avait une dynamique particulière du système français, mais qui est aussi un petit peu une conséquence de ce qui s'est passé, parce que vous savez que les Américains ont caché la copie, et donc on a fait beaucoup de choses en essayant de se débrouiller tout seul, sous la houlette de Pierre Joliot, vous le savez tous, qui était donc chef, le directeur, le président, je ne sais pas comment on appelait ça, du CEA, et qui a été nommé par De Gaulle en fin 1945. Voilà. Alors, on y va. Donc, vous avez pris vos peps, hein, parce que là, ça va être chaud. Bien. Alors, voilà le plan que je vous propose. Donc, le contexte d'après-guerre, ce que j'ai commencé à ébaucher, les acteurs militaires et politiques, puisque les choses se font avec des hommes, hein, il faut parler beaucoup des hommes, de mon point de vue, et pas seulement des chefs, mais également des ce qu'on appelle en bon français le middle management, c'est-à-dire les gens qui sont au milieu de la hiérarchie. Et c'est le cas de l'amiral Rickover, dont je vais parler, qui était perdu au milieu de la hiérarchie militaire. Et il a réussi à faire sortir le nucléaire civil par des voies très compliquées. Donc, les rapports difficiles entre les militaires et les civils, c'est pas nouveau, ça a toujours existé, et dans ce cas-là, c'est encore respecté. Les apports techniques et scientifiques, ça c'est très important, j'insisterai sur l'aspect culturel, supposer que le même processus ait eu lieu en URSS, bien évidemment, il ne serait rien passé, puisque en URSS, on cache tout. Voilà. Là, la culture anglo-saxonne fait que on fait des choses, je ne dis pas qu'on montre tout, mais on a le souci de faire partager les connaissances. Et la transposition inespérée, j'insiste beaucoup sur ce mot-là, est réussie dans le nucléaire civil, puisque ce n'était pas du tout gagné d'avance, et c'est l'énergie de ce seul homme, bon, et de tous ceux qu'il avait réunis autour de lui, qui a permis de le faire. Voilà. Alors, on va refaire un flash. Donc, 6 et 9 août, les deux bombes atomiques sur le Japon. Vous viendrez m'écouter, je vous raconterai ça. Et ma conférence s'arrête le 9 août, bien évidemment. la bombe de Nagasaki. Alors, on ne savait rien faire. Disons, je rappelle que la fission de l'uranium a été découverte en janvier 1939, et l'article fondateur, il est paru le 6 janvier 1939, et le système a été en ébullition. En 3 semaines, le monde entier savait que la fission existait, et les scientifiques étaient complètement en ébullition. Mais ça, c'est, faut venir m'écouter, le 19. Voilà. Alors, l'idée d'utiliser, vous voyez, je fais de l'autopromotion, hein. On n'est jamais déçu par ses propres compliments, voilà, je m'en fais toujours. Entre la connaissance du phénomène physique et tout ce qui a été recherché, essayé d'être compris, et la technologie qui allait avec, tout ça, ça s'est fait entre... Allez, on va dire opérationnellement, entre fin 1941 et le 6 août 1945. On est passé de 10 personnes à 130 000 personnes dans cette période-là. Et on a fait les deux bombes. Il n'y a que les Américains qui pouvaient faire ça. Mais ça, vous venez m'écouter le 19. Alors, ce que vous voyez là, c'est le socle de la pile de Fermi, si vous voulez, qui était un empilage de blocs en graphite, modérateur, qui a permis de démontrer le 2 décembre. Alors, vous verrez qu'il y a beaucoup de 2 décembre. C'est marrant, il se passe des tas de choses dans les 2 décembre, non seulement en France, mais également... Le 2 décembre 1942, la pile, et ça, je vais vous le raconter dans le détail, la pile de Fermi a divergé, et donc on a eu la démonstration expérimentale qu'on savait contrôler la fission. Et bien sûr, on manque de données scientifiques, de données scientifiques surtout organisées et accessibles. Puisque quand on passe de 10 personnes à 130 000 personnes, même si tout le monde ne fait pas de la physique nucléaire, il faut quand même que l'information circule. Alors, l'idée de faire de la... Alors, il faut savoir que dans la bombe a été faite par l'armée, entre guillemets, l'armée de terre. Hein, et la Navy, pour des raisons de chicaïa interne aux armées, qui c'est un grand sport des armées, les aviateurs qui se bouffent la rate avec les marins, etc. Aux États-Unis, ça existe aussi. Donc... pour des raisons de basse politique interne, la Navy a été exclue du développement de la bombe. Et c'est l'armée, on ne dit pas l'armée de terre, mais l'armée, qui a fait ce développement. Ah, évidemment, les amiraux disaient, oui, donc on a trouvé quelque chose, parce qu'en fait, tout le monde, à part vraiment le premier cercle, même les plus grands amiraux de la Navy ne savaient pas qu'il y avait une bombe. Ils l'ont su quand elle a pété. Monsieur Truman, vice-président, quand Roosevelt est mort, il ne savait pas qu'il y avait la bombe. On lui a dit quand même. Bon. Mais il l'a su une semaine après que Roosevelt soit décédé. Bien. Alors, évidemment, les amiraux se pointent et essayent de dire, nous, on voudrait bien faire des trucs, quoi. Hein? Et puis, le grand chef de la bombe, il s'appelle Groves, hein, le chef militaire, le général Groves, et il a dit, non, je veux pas parce que c'est secret. Donc c'est secret défense, donc vous n'avez pas accès aux données scientifiques. Bon. Alors, il y avait quand même quelques équipes à Oak Ridge, un des labos qui a été fait dans le cadre du projet Manhattan, ça s'appelle le projet Daniels, c'est le nom du gars qui avait lancé ça. C'est un réacteur à haute température. Bon. Et ça fait un flop tout de suite dans la fin 45. Alors, après, il y a l'amiral Mills, dont je parlerai plusieurs fois. L'amiral Mills, il était le chef de ce qu'on appelait le Bushships, le Bureau of Ships, le bureau des bateaux, le bureau de construction navale. Donc c'est l'ingénierie qui était à Washington qui s'occupait de construire les bateaux pendant la guerre. Donc l'amiral Mills dit « je vais envoyer des gens en stage, des gens de la Navy, en stage à Oak Ridge pour apprendre la physique nucléaire. » Et dans ces gens-là, il y a un gars qui s'appelait Rick Hover. J'y reviendrai plus dans le détail. Il y a un gars qui était à Argonne. À Argonne, c'est un deuxième labo. Argonne, c'est à côté de Chicago. Qui faisait des recherches sur les réacteurs aussi, et qui s'appelle Etherington. C'était d'ailleurs pas un gars du gouvernement, c'était un sous-traitant qui travaillait là, et qui, lui, les premières idées de ce qu'on appelle les réacteurs à eau pressurisée, c'est lui qui les a eues. Voilà. Et donc, le fameux Rick Hover a réussi à faire un mémoire en 1947 pour dire il faut faire un sous-marin nucléaire. Je rappelle que l'ambiance de l'époque, c'est le début de la guerre froide, la guerre est gagnée, l'URSS maintenant c'est le bloc contre bloc, et on sait que les soviétiques développent une flotte importante. On ne sait pas qui développe des sous-marins nucléaires, mais on peut supputer que ça soit là. J'y reviendrai dans le détail. Et alors, quand la guerre est finie, c'est un phénomène classique après les guerres, surtout quand on a un développement industriel absolument faramineux, et bien après, c'est le chômage. Disons, on ferme toutes les usines d'armement, d'équipement, et les centaines de milliers, les millions de personnes sont mises au chômage. Donc l'ambiance est morose dans tous ces circuits. Alors, je ne vais pas tous vous les lire. Donc, on voit tout de suite, je reparle de cette histoire-là, il y a eu une partie des scientifiques qui participaient au projet Manhattan ont dit, quand les Allemands sont vaincus, c'est pas la peine de continuer à développer la bombe, et ça sert à rien, il faut arrêter, parce que c'est horrible ce machin-là. D'autres ont dit, et c'était eux qui ont gagné, ont dit, comme on va l'avoir, on l'utilise contre le Japon pour arrêter la guerre contre le Japon. Voilà. Mais il y a eu des débats très intenses autour de tout ça, et on dit, c'est tellement horrible qu'il faut faire un contrôle international des armes et dire, là, on l'a, mais on n'en fait plus. Hein. Et donc, les Américains ont pris l'initiative, un peu candide, comme toujours les Américains, en disant, je vais faire un rapport. Alors, Acheson et Lilienthal, c'était le gars qui était le président de la TVA, Tennessee Valley Authority, quelque chose qui avait été fondé par Roosevelt pendant la crise, pendant le New Deal, construire des barrages sur le Tennessee pour donner du boulot aux gens, hein, parce que c'était un chômage massif. Alors, tout simplement, ce que je veux montrer là-dedans, quelle est la composition de cette commission qui a fait une proposition de contrôle international. Alors, essayons de nous placer comme Français. J'en montre en particulier deux, celui-là, Conant, et Oppenheimer, donc c'était le chef scientifique du projet Manhattan, mais surtout Conant. Hein. Conant, c'est un patron d'université. Essayez d'imaginer en France que quand on a le développement d'une arme, on va demander à un président d'université de faire partie de la commission. C'est impensable. C'est le système américain, et le système Manhattan a fonctionné comme ça. C'est-à-dire, on a mis les scientifiques tout de suite dans le bateau, et là également, pour le contrôle politique finalement des armes, la réflexion, les scientifiques ont été mis dans le coup. Bien sûr, il y a des politiques, des politiciens, des militaires des gens de l'industrie privée. Et donc le 28 mars 1946, je rappelle que les Nations Unies ont été fondées à ce moment-là, et le siège est à New York, comme vous le savez, puisque les Américains avaient gagné la guerre. Et donc le rapport dit, voilà ce qu'il dit, Il faut un contrôle international par les Nations Unies du développement des armes militaires. Et évidemment, l'URSS a dit « ça vaut pas un clou » et « allez-vous faire ». Bon, voilà. En dehors de la compétition politique entre les deux blocs, ce que les Américains ne savaient pas à ce moment-là, c'est que il y avait eu un espionnage industriel et les Russes avaient déjà beaucoup d'éléments qui leur permettront de développer ces armes. Donc évidemment, quand on leur dit ben, « vous arrêtez tout », on vous dit rien, vous arrêtez tout, bon, on dit « d'accord, ben, on regarde ailleurs et puis il n'y a rien à dire ». Alors, autre débat, au niveau du public, il faut un contrôle civil des armes atomiques. Et donc, il y a eu des débats furieux au Congrès américain pendant toute l'année 1946. Et après des tas de péripéties dans lesquelles je ne veux pas rentrer, le principal porteur de ce projet, c'est Brian McMahon, qui a été très actif pour faire les statuts, finalement, de ce qu'on appelle l'AEC, mais on pourrait l'appeler CEA en français, Commissariat à l'énergie atomique, en anglais, Atomic Energy Commission. Et donc, cette commission, elle a pris son envol juridique le 1er janvier 1947. Petite incidente, un an et trois mois après la France, puisque la France a inventé le CEA en octobre 1945. Donc nous sommes le premier pays au monde qui a mis en place un contrôle civil des armes nucléaires. Les premiers au monde. Les Américains sont passés 15 mois après. Ça, vous avez bien fait de venir, hein ? Vous apprenez des choses. Hein ? Voilà. Donc, ce McMahon, c'est un politicien très activiste, très bien. Il a eu le mauvais goût de mourir en 1953, mais juste avant, parce que vous verrez qu'en 1953, on a essayé de flinguer le père Ricover, et on n'y est pas arrivé, après des tas de péripéties, et entre autres grâce à lui. Alors voilà, Lilienthal, un beau nœud papillon, hein. Donc, c'était un poulain de Roosevelt. Je rappelle que Roosevelt est mort, hein, 12 avril 1945. Donc, c'est Truman qui est là. Mais il est dans le tuyau, quoi. Il est dans les cercles de pouvoir. Et donc, le premier président naturel, on va dire, de l'AEC, c'est Lilienthal. Ça ne va pas durer longtemps. Et en particulier, il se prononce contre le développement de la bombe H. Vous savez, la bombe H, c'est la bombe à fusion, hein, donc beaucoup plus puissante encore que la bombe A. Et il y avait également un clan pro-bombe H et un clan anti-bombe H au milieu des scientifiques. Et tous les politiciens à ce moment-là essayaient d'empêcher le développement de la bombe H. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est fait virer en 1950. Et on l'a remplacé par un gars qui s'appelait Strauss, qui lui c'était un faucon, et il a poussé au développement de la bombe H. Sous la pression bien sûr de Truman, mais ça c'était lié à la guerre de Corée, à tout ce qui s'était passé. Je rappelle la première bombe soviétique, c'est 1949. Hein. Voilà Strauss, hein, donc le suivant, et avec Eisenhower, qui, lui, à contrario, était un président beaucoup moins belliciste, comme je vais vous le montrer. Alors, je vais vous montrer une galerie de portraits rapides des acteurs qui sont issus du projet Manhattan. Donc, Dick Parsons, c'était le numéro 2 militaire du projet Manhattan. Alors, il a fait des tas de trucs. En particulier, il a été... Alors, une chose générale qu'il faut dire, tous les généraux ont une formation d'abord d'ingénieur. Tous ceux qui sont dans le système, d'abord d'ingénieur, et passent ensuite Non, je raconte des bêtises. Ils font leurs études d'ingénieur après l'école militaire. Alors que je me suis enseigné, en France, on fait les deux en parallèle pour les métiers techniques de l'armée. Donc on va à Annapolis, c'est l'école navale pour la Navy, hein, et ensuite on va à l'université passer un diplôme d'ingénieur. Donc ce sont tous des ingénieurs, et lui, il était au plus près de la physique nucléaire, il était tellement plus près que c'est lui qui a mis l'amorce dans l'avion, Enola Gay, l'amorce de la source de neutrons pour, lancer l'opération de bombardement de la bombe, la première, la bombe à uranium. Voilà. Donc lui, le nucléaire, propulsion nucléaire, évidemment, il n'est pas favorable, c'est un militaire de l'armée de terre. Donc les sous-marins, moi, ça ne me fait pas vibrer, donc je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Donc les marins, on les tient à distance. Alors voilà le fameux amiral Mills, qui a été donc chef du Blue Ships, les Américains tassent les Bureau of Ships, les bureaux des bateaux, hein, le Blue Ships, hein, de 46 à 51, et c'est lui qui a sélectionné Rickover pour être dans la bande des stagiaires à Oak Ridge. Alors, dessous, il y a toute une hiérarchie dans l'engineering, et il y a le chef des développements, bon, on dirait le chef du bureau d'études, mais au sens très large du terme, c'est l'amiral Mouma. Ils ont des noms bizarres, mais c'est comme ça. Donc le voilà, il est beau, hein, c'est presque comme un acteur de cinéma. Hein. Et donc l'amiral Mouma, c'était le chef de Rickover. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été, entre autres, et d'ailleurs, vous voyez, c'est un gars bien, puisqu'il a fait ses études en France, à l'école navale, donc il parle français, hein, et il a participé à la mission Alsos. Alors, si vous venez le 19, je vous dirai ce que c'est que la mission Alsos. La mission Alsos, c'était du contre-espionnage vis-à-vis des Allemands. Donc c'est piquer les nucléaristes allemands et devant les lignes françaises. Là on s'est fait blouser complètement, ça s'est passé, disons, au printemps 45. Et ils ont capturé finalement tous les nucléaristes allemands. Et le voilà, voilà l'amiral Rickover. Alors, il est sympa, il est né en 1900. Donc, en fonction des dates, on sait exactement l'âge qu'il avait, sans faire des calculs compliqués, en fonction des événements. Donc, merci, monsieur Rickover. Donc, il a duré 86 ans. C'est un juif polonais qui est venu dans le berceau avec ses parents, hein. Et il a fait toute sa première carrière ingénieur électricien, et c'est un ingénieur. Basiquement, c'est un ingénieur. Et on verra dans son comportement, il y a la lutte éternelle entre les ingénieurs et les scientifiques, qui est toujours d'actualité au CEA, entre EDF et le CEA, et ce chose-là. Bon, voilà, j'espère qu'il y a des... Je ne blesse pas des sensibilités dans le public. Voilà. Alors, il a une expérience de sous-marinier, c'est pour ça qu'il est sensible à l'aspect sous-marin. Il a fait que quelques commandements, parce que dans le système américain militaire, si vous avez des grades dans le, comme ingénieur, vous êtes ingénieur hors catégorie, vous n'avez plus le droit d'avoir un commandement d'un bateau, hein, dans leur système. Donc il n'a pas fait une carrière de capitaine extraordinaire, il était coté, il était dans la soute, quoi, on va dire. Par contre, il s'est fait remarquer dans ces actions-là, parce que c'était déjà pas un triste, un bosseur impénitent et un bon, un super bon, un super bon. Et très rapidement, quand on lui a dit ce que c'était que le nucléaire, il a dit ben « ça c'est génial parce que ça va résoudre le problème des sous-marins parce qu'on peut rester en plongée pendant des temps indéfinis sans être obligé de faire du refueling et surtout de sortir pour charger les batteries. » Et j'y reviendrai dans le détail. Et c'est là qu'il a réussi à convaincre donc, Nimitz. Nimitz, c'était le grand... amiral de la flotte du Pacifique, hein, qui est devenu grand amiral de la marine aux États-Unis après la guerre. Parce qu'il avait beau être au milieu de la hiérarchie, il était tellement chiant que tout le monde le connaissait. Et donc, il obtiendra de haute lutte la direction du programme de sous-marin, et je vais vous raconter l'histoire dans le détail. Il est arrivé à lancer le fameux Nautilus, et ça a bien marché. Il y a zéro accident de sous-marin nucléaire jusqu'à aujourd'hui lié au nucléaire. Et il est la seule personne de l'histoire des États-Unis qui ait deux médailles d'or du Congrès. C'est le seul Américain qui ait jamais eu cette distinction. Et en plus, il a un autre record. Il a 63 ans de service continu dans la Navy. C'est Reagan qui a réussi quand même à le foutre à la retraite à 82 ans. Parce qu'il a commencé à 19 ans. Et il est parti à la retraite à 82 ans. Alors je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de gars qui ont essayé d'avoir sa peau, et ils n'y sont pas arrivés. Hein ? Quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Alors, comme on peut le deviner, travailleur acharné, donc c'est 7 jours sur 7, il n'y a pas de vacances, bon, la bête. Hein. Et c'est un bon, c'est un très bon ingénieur, il a un excellent jugement. Ah, par contre, il est autoritaire et cassant, il a une sale gueule, hein. Voilà, hein. Et faut le supporter. Et d'ailleurs, quand il a été sélectionné par Mills, ça a été contre l'avis de beaucoup des gens du Blue Chips, qui ont dit, celui-là, non, on n'en veut pas, ça fait déjà 20 ans qu'il nous fait chier, donc ne l'envoyez pas au Cridge. Oui, mais Mills a dit, oui, je sais très bien, je le connais, il est insupportable, mais c'est le meilleur. Donc, je le mets quand même, et vous, bon, voilà. Alors, il cherche à court-circuiter les hiérarchies, c'est quand même un comble pour un militaire, hein, mais il le fait d'une façon astucieuse, je vous expliquerai comment. Il combat les blocages bureaucratiques, c'est également un comble pour un militaire, lutte en permanence pour défendre les projets auxquels il croit. Alors ça, ça a été la clé de son succès, c'est-à-dire, à un moment, il s'est convaincu que l'histoire du sous-marin, c'était le truc à faire. Eh bien, il a dit, j'y passerai ma vie, toute mon énergie, quels que soient les présidents des États-Unis, les chefs, les trucs et les michus, et les gars du Congrès et tout, je me battrai contre vents et marées pour que mon projet aboutisse. Ça, c'est pas facile, parce que dans le système de l'armée, il y a des rotations, c'est-à-dire vous passez tant de temps dans un poste, une fois que vous avez quitté ce poste, vous occupez d'un autre... Ah ben non, mais vous faites ce que vous voulez, mais moi je garde mon os à ronger. C'est pour ça que les gens ne l'aiment pas, hein, bien évidemment. Bon, alors, c'est lui qui prend les décisions techniques. Ça, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire. Un chef de projet qui prend lui-même les décisions techniques et le retour 50 ans après, toutes les décisions qu'il a prises se sont révélées bonnes. Bon, voilà, bravo, monsieur Ricover. Un point important, c'est pour ça que le bouquin, je vous montre, de Ricover Effect, c'est il est très sensible à la formation. C'est-à-dire, en même temps qu'il fait le boulot, c'est la formation continue. C'est très à la mode en ce moment. La formation continue. C'était déjà le cas dans le projet Manhattan. Il y avait beaucoup de cours et de conférences à l'intérieur des équipes. Il a continué le système, il l'a amplifié. C'est-à-dire, non seulement on fait en permanence des cours, mais également on n'écrit des bouquins scientifiques au fur et à mesure du déroulement de... c'est comme si on vous disait je conçois une voiture et je fais le handbook comment construire une voiture en même temps. Rigoureux, grand souci de la sécurité, et pragmatique, c'est-à-dire que quand ça devient trop dur, il sait quand même un petit peu quand même contourner l'obstacle. Il n'est quand même pas si buté que j'ai l'air de le présenter. Alors, les sous-marins. Qu'est-ce que c'est qu'un sous-marin ? Alors, vous savez tous, entre guillemets, qu'un sous-marin, ça marche à l'électricité. Non ? Pas vraiment ? Parce que si on met un moteur avec un pot d'échappement, il faut trouver l'endroit où le pot d'échappement s'échappe. OK. Donc, comment ça marche, un sous-marin ? Eh bien, ça marche comme votre téléphone portable. Il y a des batteries. Et de temps en temps, eh bien, on fait surface, on fait tourner les diesels, on charge les batteries, et après, on redescend dessous, on coupe... bon, voilà. Bon, c'est quand même... et quand on sort, ben, on est vulnérable, évidemment, vis-à-vis des bateaux de guerre ennemis. Alors, il y a les Allemands, c'est même les Hollandais, puisque c'est un nom hollandais, qui ont inventé le schnorkel, je vais y arriver, hein, le schnorkel, c'est le pot d'échappement, c'est un petit tuyau qui dépasse tout juste, donc on est en semi-plongée, il y a juste un tuyau qui dépasse, mais ça fait quand même une traînée qui permet de repérer les choses. Donc le schnorkel, c'est un ersatz qui permet de charger les batteries tout en étant en plongée. Donc, Recover convainc 1000. 1000, c'est 1000 s'il envoie. Il ne considère quand même pas la hiérarchie. Il envoie ça à l'amiral Nimitz. Et donc, il va obtenir un consensus de la marine pour dire, ben oui, un sous-marin nucléaire, c'est vachement bien, pour des raisons que je vous ai expliquées. Donc, voilà le stage. Alors, maintenant, je vais rentrer dans le détail. Ils vont à Oak Ridge. Et puis, donc, il y a 8 personnes. Et pour arriver avant de monsieur Recover à tous les autres et à la hiérarchie, a dit bon, ben d'accord, on le met, ok, et il n'aura pas de rôle hiérarchique vis-à-vis des autres. Donc, ce sera un stagiaire parmi tant d'autres. Que dalle ! Évidemment, au bout de 2 jours, il avait pris de lui-même par son autorité naturelle. Donc, non seulement il suivait les cours, mais il imposait à tous ses 7 collègues de faire un reporting, c'est-à-dire de tout ce qu'ils avaient, toutes les notes qu'ils avaient prises, de les faire taper, de les relier et de les partager entre eux. Et s'il n'avait pas fait, il les engueulait. Alors qu'il n'avait pas de rôle hiérarchique, mais il avait un pouvoir de conviction, certainement important. Et tout de suite aussi, il a dit, mais c'était déjà le cas dans le cas du projet Manhattan, pour faire des choses, on ne peut pas rester purement dans les arsenaux, on va dire, il faut impliquer les industriels parce que tout seul, on peut rien faire. Alors, lui, il avait une grande pratique des industriels parce que quand il était entre les deux guerres, il a fait beaucoup de choses sur l'ingénierie électrique des croiseurs, des lanceurs de mines et des choses comme ça, où il avait des relations, et d'ailleurs ça va lui servir, ça, très développées avec General Electric, avec Westinghouse et d'autres. Voilà. Donc le bureau Buships, hein, voilà. Bon, je passe vite. Donc vous voyez, les Buships, ça couvre, il y a 6000 personnes dans l'ingénierie, il y a 495 chantiers navals pendant la guerre, hein, et ils ont sorti 11 000 bateaux pendant la guerre, de tout poil. Alors, un gars dont on va reparler, c'est Abelson. Abelson, c'est un scientifique qui a inventé une méthode de séparation isotopique qui s'appelle la diffusion thermique. Tout le monde, ça faisait ricaner tout le monde en disant ça ne marchera jamais. Et en fait, à la fin du projet Manhattan, on l'a remis. D'ailleurs, ça a servi un petit peu à remettre la marine dans le circuit. On a développé une unité de diffusion thermique pour compléter ce que les autres labos n'arrivaient pas à faire, pour séparer le U-235 de l'U-238. Voilà. Bon, alors là, on rentre dans une phase classique, bureaucratique, c'est-à-dire tout le monde se renvoie la balle, entre puisque finalement, les deux acteurs que vous avez, c'est la commission, l'AEC, le CEA, hein, donc c'est les civils et les politiciens qui sont derrière, et l'appareil de la Navy. Et tout le monde, globalement, est un peu d'accord qu'il faut faire des sous-marins nucléaires, mais qui va être le chef ? Et donc, on passe son temps à se tirer la bourre pour dire qui va être le chef du système. Voilà. Alors, une petite incident. General Electric, vous savez, General Electric, c'est la boîte de Thomas Edison, qui a été fondée par Thomas Edison, mais 70 ans avant, hein, qui a inventé l'ampoule électrique, et qui a une culture, c'est eux qui ont inventé la R&D, la recherche et développement dans les boîtes privées. Avant, ça n'existait pas. Donc, il y a des labos de recherche séparés de l'ensemble de l'activité. Et donc, ils sont perçus, et c'est une réalité, ils sont perçus comme étant une boîte qui fait bien, qui sait faire de la R&D, qui l'a fait très bien. Sauf que leur culture, c'est filez-moi les subventions et les contrats, et puis je fais la R&D, et puis quand j'aurai fini, je vous dirai le résultat. Donc, ils sont très réluctants à l'interventionniste des clients, finalement, chez eux. Alors, on a demandé à General Electric, c'est pas lui, c'est le chef du projet de Manhattan, en disant il y a les grands réacteurs plutonigènes qui sont à Hanford. Hanford, c'est dans l'état de Washington, vers Seattle, hein, donc sur la côte ouest des États-Unis. Donc il y a d'énormes réacteurs qui ressemblent un peu à ce qui a été après G1, G2 en France, hein, à Marcoule, et qui fabrique des éléments dans lesquels il y a du combustible, et après il y a une usine de retraitement chimique qui permet de séparer le plutonium de l'uranium. Et donc tout ce bazar-là, c'est comme un complexe pétrochimique, hein, il y a 20 000 personnes là-dedans, donc le gouvernement n'est pas capable de manager ça, donc le gouvernement dit, je vous file un contrat pour manager ce site de Hanford, et en contrepartie, je vous paye un labo de R&D à Schenectady. À Schenectady, c'est sur la côte est, à côté de Boston, et donc il s'appelle Knowles. C'est le nom du bled où ça a été installé. Alors voilà quelques autres vedettes. Alors maintenant, je vous montre les scientifiques. Walter Zinn, c'était le chef du labo d'Argonne, à Chicago. Il a commencé à Columbia. C'est un Canadien d'origine, comme son nom ne l'indique pas. Et donc, c'est lui aussi la seule personnalité en disant, moi, je m'occupe de tout, puisque je sais tout faire, et donc, c'est moi le chef. Hein? Donc, ça commence comme ça. Lui, par contre, c'est un scientifique qui est assez réaliste, et il était assez favorable aux réacteurs à eau pressurisée, parce qu'à l'époque, il y avait des tas d'idées pour faire des réacteurs nucléaires, et le choix entre les différentes filières n'avait rien d'évident. Lui faisait partie de la tendance eau pressurisée. Voilà. Alors, une fois qu'il avait fini son stage, Rick Hoover, avec ses boys, et je refais la tournée des labos pour voir, lui il a passé 8 mois à Oak Ridge, et maintenant je vais faire le tour des États-Unis pour voir qu'est-ce que les gens savent faire ici ou là. Donc il va partout, et puis il baratine tous les chefs des labos en disant « faut me soutenir pour que je puisse faire mon sous-marin nucléaire ». Alors il commence par voir Lawrence, venez m'écouter le 19, d'accord. Lawrence, c'est Berkeley, c'est celui qui a inventé le cyclotron. Le cyclotron, c'est un accélérateur qui permet de séparer le l'U-235 de l'U-238. Et il en a fait une version industrielle qui à Oak Ridge, qui a permis, avec des doses homéopathiques, de, au bout de 3 ans d'essai, de faire un petit peu d'uranium-235. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, Laurent, c'est un scientifique. Ouais, c'est vachement bien. Ouais, il faut faire un sous-marin atomique. Alors, Teller. Teller, c'est le scientifique qui est le champion de la bombache, qu'il appelle le super, le super. Hein. Alors, il s'est bagarré, donc parce que pendant le projet Manhattan, on lui a mis la tête sous l'eau en disant « Tu t'arrêtes de nous embêter avec le super et fais donc la bomba déjà. Avant qu'on fasse la bombache, on va déjà commencer à faire la bomba. » Mais alors, Teller, « Ah ouais, ouais, c'est vachement bien, le sous-marin. » Voilà, il faut y aller. Voilà, donc ça se termine chez Nimitz. Voilà. Alors, après, la commission s'en occupe. Donc, les bureaucrates. Donc, faut qu'on trouve un endroit où c'est centralisé, évidemment. Alors, où est-ce qu'on va, machin ? Donc, on va faire ça à Argonne. Argonne, c'est à côté de Chicago. Et puis on lui dit, c'est nous le gouvernement, c'est nous qui donnons les sous, c'est nous les chefs, donc la Navy, ben, on va les inviter pour qu'ils regardent, mais c'est nous les chefs. Alors la Navy, ça leur plaît pas, bien sûr. Hein. Et donc il y a eu tout un tas de passes d'armes, et là, il s'est passé une chose, il y a eu un colloque, Undersea Warfare Symposium, le colloque sur les sous-marins, hein, en avril 1948. Et là, le général Mills, tout seul, fait un discours et engueule, mais alors d'une façon comme des chiffonniers, tous les gens de la commission du CEA. Et les gars, il avait des copains à la commission, jamais j'ai été engueulé comme ça en public. Et pourtant, c'est mon copain. Il a été ignoble. Mais ça a fait bouger le système et il a réussi à déstabiliser le système pour que la Navy prenne finalement le leadership, poussé bien sûr par le Gary Cover qui est toujours capitaine. Voilà. Alors bon, une fois que les bureaucrates, évidemment, c'est des bureaucrates, ce n'est pas des chefs de projet, donc très vite on s'aperçoit que seuls des opérationnels peuvent monter le projet. Et là, Mills, une fois qu'il sent que ça passe, il dit, ben, le chef de projet naturel, j'en ai un, il est tout fait, tout cuit, tout, hein, il s'appelle Recover. Alors, voilà. Donc, Recover est le chef du code 390, c'est le nom d'un service. Hein, c'est, bon, je vous expliquais sur des organigrammes. Donc, il est au milieu de la hiérarchie du Blue Chips. Et donc, il a accès à tout. Donc il a gagné là-dessus. Et parce qu'une fois qu'il avait fini son stage, tous les gars qui étaient avec lui, évidemment, ils étaient débandés dans d'autres équipes. Donc il a dit, tous les gars qui étaient avec moi, je les récupère et je reconstitue mon équipe. Bon, voilà. Et donc, voilà. Alors, les autres acteurs du système, celui-là, c'est Hafstadt. Alors, Hafstadt, c'est, le directeur scientifique de la commission. Et Recover, tout en étant insupportable, a su s'en faire un allié. Donc, c'est un de ses alliés au sein de la commission. C'est-à-dire qu'il peut relayer les messages scientifiques au sein de la commission. Voilà quelques noms des collaborateurs de machin. Rodis, Dick, Dunford, Mandil, Panoff et Rockwell. Alors ceux-là, je les cite, j'ai un petit sentiment vis-à-vis d'eux. C'est qu'une fois, dans les années 60, ils ont quitté l'équipe de Recover, ils ont fondé une boîte d'ingénierie. Parce qu'ils en avaient marre quand même, il était quand même un peu lourd, et qui s'appelle MPR, et qui est à Washington, dans laquelle j'ai travaillé pendant un mois, il y a quelques années, pour faire des offres de GV de rechange. Voilà. Donc, vous voyez, même Recover, ça arrive jusqu'à moi. Voilà. Donc je ne vais pas vous casser les pieds trop avec les organigrammes, mais tout simplement pour montrer que c'est toujours des organigrammes classiques en double commande, sans qu'on montre qui est le chef de qui. Hein. Donc tout est en double commande, c'est comme l'auto-école. Mais très rapidement, c'est celui qui est opérationnel qui devient le chef. Alors le recover, ben, il est là. Et puis très vite... tous les branches périphériques, ça disparaît et le centre se gonfle et il est chef de tous les labos Pittsburgh. Bétis, c'est le labo de Westinghouse, j'en parlerai, Argonne, etc. Alors là maintenant Argonne, il est sous le, pour la partie sous-marine nucléaire, il est sous Recover. Et ça se complexifie encore. Alors là, bon, vous voyez, il est toujours là, hein. Mais l'AEC, bon, elle a juste un petit gars qui surveille ce qui se passe, mais celui qui fait le boulot, il est là, il a tout ça en ligne. Voilà. Alors là, c'est un logigramme. Je vais passer là-dessus, j'y reviendrai après. C'est les différents projets de réacteurs qui se sont passés dans les différents sous-marins. Bon. Alors, évolution de la situation internationale. Début de la guerre froide, Tchécoslovaquie, donc les communistes prennent le pouvoir, rejet d'un accord, je l'ai déjà parlé avec l'URSS, tension autour de Berlin, je vous rappelle le blocus de Berlin, donc la tension géopolitique de montant, l'intérêt d'avoir d'une part continuité dans les armements dans Bomba, mais également des sous-marins nucléaires. Pourquoi les sous-marins nucléaires? Tout simplement parce que le renseignement américain a découvert qu'ils avaient construit 5 fois plus de sous-marins que les Américains n'en avaient en 1949. Donc ils ont dit qu'il faut quand même se réveiller et faire quelque chose. Voilà, ça je l'ai déjà dit, donc chez eux, voilà les partenaires. Donc je vais parler de Westinghouse. Alors Westinghouse, au contraire de GE, n'a pas la culture de R&D. C'est une boîte de fourniture industrielle, donc d'équipements électriques, etc. Et Recover, qui le connaît bien, baratine. Alors ça, c'est un principe général avec Recover, je ne parle qu'avec le président. Et quand je parle avec le président, tu ne comprends rien à la physique nucléaire, tu vas faire 3 mois de stage à Oak Ridge. Mais de quoi tu te... Tu vas faire 3 mois de stage à Oak Ridge. Et il obéit. Le PDG de Westinghouse a été faire 3 mois de stage à Oak Ridge. Donc, vous voyez, il avait quand même une puissance de conviction terrible. Ah, il a dit, tu vas faire un labo qui sera à côté de Pittsburgh, puisque le centre de Westinghouse, c'est Pittsburgh, qui s'est appelé Bétis. Il a fait ça dans un aérodrome désaffecté. Et puis, je te fais des contrats en or, c'est-à-dire cost plus fee. Hein, cost plus fee, ça veut dire c'est le coût plus la marge, quoi. Hein. Donc, même si ça crève le plafond, ben, ma foi, on ne perd pas d'argent. Je parle de la société privée, ce n'est pas des contrats au forfait. Donc, et pourtant, c'est un militaire qui dit ça. Hein? Donc il dit, pour que vous puissiez bosser, il faut que vous y retrouviez et que vous ne laissiez pas votre culotte. Donc, l'ébauche du PWR, je rappelle que le sous-marin nucléaire, c'est un réacteur à eau pressurisée. Donc, parce que pourquoi l'eau pressurisée? Quand même un petit peu de technique. Le sous-marin, il fait 7 mètres de diamètre. Faut qu'on arrive, les réacteurs de Hanford, ils font 15 mètres au cube. Donc on ne peut pas rentrer des trucs avec des barres de graphite et des machins dans un sous-marin, ça passe pas. Donc il faut une technologie qui permette de les rentrer dans la boîte. Donc un des candidats, c'est donc l'eau pressurisée. Alors, une chose également que de l'expérience de Recover, un point important, il le dit dans tout ce qu'il écrit, la corrosion, c'est vraiment une merde indescriptible. Si on ne fait pas attention à la corrosion, tout le reste, même si c'est bien fait, on se casse la figure. Donc il faut des matériaux qui tiennent à la corrosion. Et il n'y a pas... on n'y connaît rien dans le milieu PWR, etc. Donc, après des tas de réflexions, parce qu'on dit on va le faire en alu, en inox, en machin, hein, c'est le zirconium, qui est quand même un métal un peu exotique, qui est choisi. Alors le zirconium, en plus, il a, comme c'est un peu une terre rare, mais enfin c'est près, il a des traces. Merde, pardon. Il a du hafnium. Hafnium, là, c'est une terre rare. Et le hafnium, il a le mauvais goût d'absorber beaucoup les neutrons. Alors, si on le fait sans faire attention, eh ben, le zirconium, ça ne marche pas, ça bouffe les neutrons. Donc, il a fait développer une méthode d'élaboration avec les sociétés qui savaient faire, fabriquer du zirconium. Et là, mon recover, il était dans la boîte et en disant « il faut trouver ça, là, là, où vous en êtes, etc. etc. » Et on fait des réunions jour, matin, nuit et soir, le week-end et tout, et il faut que ça avance. Donc l'idée de base, c'est le fameux Etherington que je citais tout à l'heure, qui était un gars d'Ali Chalmers. Voilà. Et donc, comme le sous-traitant du zirconium pédalait dans la choucroute, il a dit, j'en ai ras-le-bol, donc il dit à Westinghouse, vous allez me construire une usine de zirconium dans le labo de Bétis. Il a dit ça, 3 mois après, ça tournait. 3 mois. 3 mois. Je vous montrerai la photo. Donc, la structure, un gros bidon de réacteur pour loger le cœur, les éléments combustibles en U235 métallique, les gaines en zirconium, les barres de contrôle en hafnium, comme je vous ai dit que ça absorbait, donc on fait le hafnium, puisqu'on l'a séparé, donc on en a, voilà. Le générateur de vapeur avec l'eau à l'intérieur des tubes, il y a eu aussi ce débat en disant est-ce qu'on met l'eau à l'extérieur ou à l'intérieur, bon ça c'est pour le confinement, c'est évident. Ça c'est des décisions recover. Voilà. Et donc, 60 ans après, on dit, ouais, il avait du nez. Hein. Donc, faire beaucoup de travaux sur la corrosion et beaucoup d'attention sur la protection biologique. Dès le départ, il a été très sensible à ça, parce que c'est un sous-marinier. En disant, si on a des problèmes dans le sous-marin, s'il y a des fuites de machin, non seulement intrinsèquement c'est dangereux, mais en plus, comme on est dans la boîte, eh ben, il n'y a pas d'issue de secours. Hein. Donc il faut absolument que ce soit blindé, au sens... Et voilà l'usine de fabrication du zirconium qui était faite en 3 mois. 3 mois avant, il n'y avait rien là. 3 mois après, il y avait ça et ça tournait. Essayez de faire ça aujourd'hui dans nos systèmes extraordinaires de management. Et quand on regarde les dessins, ça ressemble furieusement aux dessins des centrales telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est des dessins qui ont été faits en 1950. Hein ? Donc, la géopolitique, ça continue à être le bazar, comme c'est toujours. Hein, la guerre de Corée, la guerre froide, Eisenhower, explosion de bombes H, alors, le USA, novembre 52, donc Eniwetok, et le 12 août 53. Alors, entre-temps, en 1950, on a découvert l'espionnage. C'est Klaus Fuchs, qui était un Allemand communiste, qui était passé à travers les mailles du filet, qui avait été amené dans les bagages des Anglais, et qui n'a pas du tout manifesté. Et il donnait les secrets aux Soviétiques, parce qu'il disait qu'il ne faut pas qu'il n'y ait qu'une seule puissance qui ait ce secret-là. Et il n'a jamais accepté un seul dollar. Il le faisait par conviction. Et personne, donc c'est pas le FBI, il n'y a vu que du feu, etc. Et c'est à l'occasion d'autres enquêtes qui se sont faites en Angleterre, à l'époque il était en Angleterre, qu'il a été interviewé, puis qu'il a craché le morceau, il a dit « j'étais un espion soviétique ». Voilà. Et là, les fameux Rosenberg, les époux Rosenberg, qui ont fait en 1953, qui ont été exécutés aux États-Unis, les époux Rosenberg, ils étaient dans la chaîne de passage des informations de Klaus Fuchs aux Soviétiques. Et les Rosenberg, parce que vous savez qu'il y a eu des manifestations dans le monde entier pour empêcher l'exécution des Rosenberg. Vous avez un âge pour vous en souvenir. Eh bien, et on a dit, c'est pas vrai, ils n'étaient pas des espions. Si, on a ouvert les archives soviétiques et c'était bien des espions. Voilà. C'est pas pour ça qu'il fallait les tuer, hein, c'est ce que je veux dire, mais voilà. Alors, en particulier, donc, ils collaient au peloton, si vous voulez. On l'a vu ici. Et donc, pourquoi Staline n'a pas bougé un cil quand Truman lui a dit à Poznan, fin juillet 1945, on a un truc terrible qui va dévaster le monde. Ah bon ? Il a fait. Il savait que la bombe existait et il savait que l'essai avait réussi à Los Alamos. Donc, Staline a dit, ah bon ? Et ce comte Truman, ça lui a pas semblé bizarre. Hein? Bon, enfin, on ne fait pas l'histoire. Voilà. Alors, comme dans tous les développements technologiques, eh ben, c'est pavé de chausse-trappes et de difficultés, bien sûr. Hein? Et en particulier, les éléments combustibles. Alors, je vous montrerai les éléments combustibles qui ne sont pas les éléments combustibles actuels. C'est des éléments lamellaires, je vous montrerai des dessins. Et sur le mécanisme de contrôle de barres, vous savez, les barres qui contrôlent la réactivité, est-ce qu'on les fait toutes bouger en même temps ou est-ce qu'on les fait bouger individuellement et tout ? Alors là, les bagarres d'ingénieurs, ça a fumé. Hein. Et donc, maintenant c'est individuel, hein, c'est, encore une fois, c'est Rickover qui a pris la décision. Le système a cliqué, c'est lui qui l'a adopté. Hein. Alors, dans ces bagarres, ben, il faut faire des réunions de concertation. C'est très à la mode maintenant. Alors, les Américains, ils appellent ça les Quaker Meetings. Alors, c'est quoi ? C'est, au lieu de s'engueuler, chacun raconte son histoire, les uns après les autres, puis après, on fait de la méditation. Les Quakers. Et puis, on laisse reposer, puis le lendemain, on les remet tous dans le même bocal et trouver un compromis. Alors ça marche avec les God Westinghouse, mais avec les tordus de d'Argonne et puis de Knolls, surtout GE, en disant, General Electric, tu nous casses les pieds, c'est nous les chefs de la R&D, lâche-moi les baskets. Hein. C'est moi qui ai raison, puisque c'est moi qui fais la R&D, c'est moi le meilleur. Hein. Ah, maintenant, on va finalement on fait les études et on va construire les sous-marins. Alors, où est-ce qu'on va construire les sous-marins ? Dans un chantier naval. Hein ? Et le chantier naval, il s'appelle Electric Boat. C'est bien nommé puisque je vous expliquais que les sous-marins, ça marche à l'électricité. Hein ? Et il y a un deuxième qui est le Portsmouth Naval Shipyard. Alors ça, c'est très américain. Il y a la moitié qui est privée, la moitié publique. Donc, les choses avancent et surtout ce que Rickover a réussi à obtenir en disant je fais la construction en même temps que les études. Premièrement, je fais la construction en même temps que les études et je fais une contre-réaction permanente entre ce qui se passe dans les usines et les ateliers de montage et la planche à dessin. Le design est fait dans les usines de fabrication. Ça va te rappeler quelque chose. Interdit de faire le design à Washington. Interdit de faire un design au siège social. Aujourd'hui, ils se feraient tailler les oreilles en pointe. Voilà. Et donc, il y a aussi l'idée pour le porte-avions, mais comme on ne peut pas courir tous les lièvres à la fois, et ça coûte un bonbon, donc le porte-avions, il est mis un petit peu en stand-by, et donc on met tous les efforts sur le sous-marin. Alors, je redis encore une fois le fonctionnement de Rickover, donc il fait tout, hein. Il prend toutes les décisions techniques, il embauche tout le monde, et il a embauché plus de 10 000 personnes, personnellement. 10 000 personnes. 10 000 personnes, de l'ouvrier soudeur au chef du bureau d'études. 10 000 personnes. Il y en a un qui fait ça aujourd'hui, qui est vivant, c'est Elon Musk, monsieur de SpaceX et de Tesla. Il embauche lui-même tous ses collaborateurs. Il les vire aussi. Hein. Bon, c'est comme ça. Elon Musk ressemble beaucoup à Rick Hoover au niveau du mode de fonctionnement. Équipe de collaborateurs, il a une équipe de choc autour de lui, qui d'abord le supporte, au sens actif et réactif. Et donc il va partout. Réalisation simultanée du sous-marin et de sa maquette. Alors ça aussi, il n'y avait pas la réalité virtuelle à l'époque. Donc il a dit, je fais une maquette en contreplaqué, où et tous les tuyaux, toutes les vannes et tout sont simulés, pour voir si ce qui est dessiné sur la planche à dessin, ça va rentrer dans la boîte. Voilà. Et j'y tiens beaucoup, et je vais jusqu'à l'interrupteur pour la lumière et tout, voilà. Et donc cette maquette, elle a été faite à Idaho, je vais vous montrer les photos. Donc voilà les différents... Donc il y a deux projets, un projet à eau pressurisée, un projet à sodium. Et donc il y a le deuxième sous-marin a été fait avec un réacteur au sodium. Donc vous savez l'histoire du sodium, c'est très ancien. Donc voilà les dates, je passe très vite, puisque tout ça je l'ai donné à mon ami Bourges, et donc vous pourrez en avoir des copies papier ou électroniques. Bon, voilà, donc... hein. Electric Boat, bon, je passe vite là parce que c'est... Voilà, alors maintenant on arrive au... on appelait ça le Nautilus. Pourquoi on l'appelait le Nautilus ? Jules Verne. Et il l'a dit explicitement, j'ai pris Nautilus parce que c'est le sous-marin de Jules Verne. Et d'ailleurs, quand on regarde les dimensions... longueur, largeur, hauteur, c'est à peu près les dimensions du sous-marin de Jules Verne. Curieux, hein ? Parce que Rick Hoover, je ne l'ai pas dit, il a une très grande culture. Il sait tout. Il a une culture encyclopédique, c'est un grand lecteur, il est un grand admirateur de Jules Verne. Mais il connaît les Védas, il connaît le bouddhisme, il connaît tout. Il sait réciter des pièces de Shakespeare par cœur, du premier vers au dernier vers, etc. Et dans les entretiens d'embauche, il fait réciter comme ça, sans prévenir, « Dis-moi l'acte 3 de Richard II. Ah, » Bon, circuler au suivant. Voilà. Donc, ça fonctionne. Le lancement, alors, sans le réacteur, c'est le... c'est là, avec mamie, disons la coque, elle est inaugurée par Truman, mais le lancement est fait par mamie Eisenhower, donc qui était très active médiatiquement, hein, le 21 janvier 1954, les flanflons, les drapeaux américains, patati patata, et il fait des tests en plongée longue durée pendant 2 ans. Et il va visiter tous les ports alliés, évidemment, d'Europe occidentale, et en particulier tous les marins français ont pu visiter dans le détail toutes les installations du sous-marin Nautilus en 1957. Donc, nous, on a fait des sous-marins nucléaires, on nous a donné des idées, ça avait déjà été fait. Voilà. Alors, les tests à Idaho, c'est le test à terre, donc dans la maquette, si vous voulez. Donc, il y a une maquette et on essaye de voir si ça fonctionne à terre. Alors là aussi, des bagarres à n'en plus finir entre les personnes, c'est décrit dans les lignes. Là, je ne veux pas rentrer dans le détail. Il finit par imposer un gars qui est le dictateur local et qui mène tout à la baguette, les sous-traitants et tout, et ça fonctionne. Alors, je vais insister sur les dates, là. La divergence du prototype, donc à Idaho, c'est le 30 mars 1953. Alors, l'année 1953, ça va être une année critique pour le capitaine Rick Hoover. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà des photos de l'installation. Alors, en fait, tout le système, il est dans le là au milieu, mais vous voyez, vous avez la simulation de la... Zut. de la coque, enfin de l'encombrement du sous-marin, si vous voulez. Alors, c'est peu de dire que tout le monde voit bien que ça marche et il ne fait pas que des contents. Donc, les peaux de banane et les coups de poignard dans le dos, ça, il va en veut tout en voilà, lui, il s'en fiche complètement. Et ils ont dit, ça y est, on a trouvé une astuce pour s'en débarrasser. C'est la suivante, c'est qu'il arrive au 1er juillet 1953, à la fin de son terme, de son engagement. Comme il est que capitaine, il ne peut pas dépasser la date du 1er juillet. Pour qu'il puisse la dépasser, il faut qu'il soit nommé amiral, ou contre-amiral, c'est-à-dire le premier grade, donc qu'il soit officier général. Et là, évidemment, tous les gens qui ne l'aiment pas savonnent la planche, et donc les commissions pour le tableau d'avancement passent et Rickover est toujours dans le sous-marin. Mais il est toujours dans entre deux jours, c'est le cas de le dire. Mais bon, lui, il s'en fiche. Hein. Et les gens qui sont en sa faveur voient bien la manœuvre. Alors, il se trouve que, très habilement, ils ont médiatisé la sortie Mark 1, c'est-à-dire du test à Idaho, et il fait la une de tous les magazines, comme Macron. Hein, disons, au premier trimestre de machin, et tout le monde, Rickover, c'est le dieu vivant, c'est lui qui va faire les sous-marins nucléaires, machin comme ça. Et bon, les commissions d'avancement, elles ont un peu de mal, donc on pousse encore un grand coup. Et donc le fameux McMahon que j'ai montré tout à fait au début en disant mais c'est un scandale, il faut le nommer, mais il y a de la résistance. Alors, ils ont trouvé, c'est la seule fois où c'est arrivé dans l'histoire américaine, la dernière commission c'était fin juin 1953. La commission passe et il n'est toujours pas nommé. Il a fallu le secrétaire d'État à la guerre qui a dit « Bon, dites donc les gars, on recommence, on fait un tour de piste. » Donc on fait une commission le 1er juillet. Et puis, vous allez réfléchir. Hein. Donc ils ont réfléchi, mais en principe, au tableau d'avancement, c'est fait par consensus. Et là, c'est la seule fois dans l'histoire américaine où il y a eu un vote à bulletin secret. Et il a été nommé Rear Amiral, donc contre-amiral. Ouf, il était sauvé des eaux. Et ce scénario s'est reproduit à plusieurs reprises par la suite, puisqu'on a fini par le flinguer en 1982. Hein. Donc là, ça se passe en 1953, donc il a encore tenu 30 ans. Hein. Parce qu'il avait réussi à monter les... Enfin, il avait réussi. Tous ses supporters avaient réussi à lui éviter les blocages du système. Voilà. Hein. Et là, j'ai mis... Alors ça, c'est pas lui qui a fait ça. Voilà. Magnifique photo. E égale MC2, évidemment. Hein. Voilà. Bon. Voilà. Alors, 53, c'est aussi l'année de l'élection de Eisenhower. Alors, Eisenhower, lui, il est... je rappelle qu'il a critiqué, quand il a terminé son deuxième mandat, le complexe militaro-industriel, voilà, je cherchais le terme. Et donc, il sent la puissance de toute l'industrie d'armement qui est là, qui pompe le sang et les budgets du Congrès, et les lobbyistes qui sont très actifs. Et tout. Il dit il faut qu'on arrive à contrôler ça. Alors, comment on peut faire pour divertir une partie de l'énergie de ces gens-là. Et donc, c'est là l'idée, on va relancer l'idée du nucléaire civil. Alors, qu'est-ce qu'il fait attendez, voilà. Le mot magique, c'est ça, Atom for Peace. Donc, le 8 décembre 1953, il prononce un discours très remarqué devant l'Assemblée générale des Nations Unies, qui l'appelle Atom for Peace. Maintenant, on a obtenu la technologie avec la bombe et avec le développement du sous-marin, et donc c'est le moment de transposer ces connaissances pour faire des centrales qui permettent de faire de l'électricité et à terre. Donc, évidemment, c'est extraordinaire. Et donc, il lance l'opération Shipping Port, que je vais décrire dans le détail, elle est mise, la première pierre c'est en 54 et l'inauguration c'est en 58. Alors, ce qu'il a fait faire aussi, c'est changer le statut de l'AEC. Jusqu'à présent, l'AEC, c'était militaire. Enfin, c'était civil, mais ça contrôlait les activités militaires. Donc, un grand mot en tête de tout ça, le secret. Pas de diffusion à l'extérieur. Donc, pour faire du civil, c'est pas facile de faire du civil avec du secret. Donc, il faut donner une petite respiration vis-à-vis de ça. Et en particulier, possibilité de prendre des brevets par l'industrie et accès limité possible aux données techniques pour le privé. Et surtout, par contre, pour la partie hypersensible, c'est-à-dire la possession juridique des matières fissiles, c'est le gouvernement qui la garde. Et on dit, on la loue aux sociétés privées. C'est une figure de style, on va dire. Hein. Mais ça a quand même débloqué la situation. Voilà. Alors, comme toujours aux États-Unis, je rappelle que le Congrès est souverain, et donc les bagarres pour les budgets, ben, ça monte, ça baisse et tout, en fonction des politiques et des possibilités budgétaires. Et finalement, le sous-marin est mis au frigo, hein, au moins pour un temps, et ça permet de mettre tous les biscuits donc sur la poursuite du programme de sous-marin et également de lancer une opération de réacteur civil à terre. Et alors là, comment faire ? Eh bien, l'idée, bah, c'est tout bête, il suffit, on l'a déjà fait à Idaho, on prend le moteur du sous-marin, puis on le pose dans un endroit qui va bien, mais il faut qu'il y ait une société d'électricité qui veuille bien accepter de faire ça. Alors, vous allez voir, il y a des trucs rigolos. Bon, simplement un petit, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à l'occasion de tous ces travaux, eh bien, il y a eu toute une bibliographie qui est publique à cette époque-là, et donc qui n'est pas du tout réservée, et donc qui parle de métallurgie, de voilà, les computer codes, voilà, etc. Beaucoup sur les matériaux. Et voilà, Murray, c'est... Alors, je vous ai parlé de Hafstad tout à l'heure. Murray, c'est aussi un des grands partisans du projet civil qui est à la commission. Et vous voyez, il essaye de convaincre ses collègues qu'il faut soutenir ce projet. Voilà. Alors là, il y a différentes phases et tout et tout. Alors si, un point essentiel, c'est qu'après... Non, c'est là... Oui. Le PRDP. Alors, le PRDP, c'est un programme qui a été inventé par l'AEC au niveau du Congrès. Ça veut dire Power Reactor Demonstration Program. Donc, pour donner de la finance, pour amorcer la pompe auprès des compagnies d'électricité. Alors, ça a eu un succès relativement mitigé. C'est la méthode Recover qui était bien plus efficace, c'est-à-dire de s'entendre en direct avec telle ou telle compagnie d'électricité, puis de faire le boulot. Tandis que quand on fait ces grands machins bureaucratiques, ben, ça se perd un peu dans les méandres de la bureaucratie. Alors, la société qui accepte de faire ça, c'est Duke & Light. C'est une société qui est à côté de Pittsburgh. Qui est dans la Beaver Valley, la vallée des castors, hein, et où j'ai passé quelques fois dans ce coin-là. Et les premières centrales sont dans ce coin-là. La centrale de Shippingport, maintenant, elle est décommissionnée, mais elle a duré quand même une trentaine d'années. Et c'est une compagnie d'électricité, bon, très classique, et qui fait de l'électricité comment ? Avec du charbon, parce que je rappelle qu'on est en Pennsylvanie, et là, il y a des grandes mines de charbon. Maintenant que M. Trump est là, il en fait un grand cas. Hein. Et effectivement, quand on se balade dans le coin, quand on est dans les petites routes des montagnes, vous êtes coincé entre deux énormes camions qui font 40 tonnes pleines de charbon jusqu'à la terre. Vous dites, s'il y en a un qui freine, vous êtes ratatiné comme ça. J'ai passé, j'ai eu quelques frayeurs. Vous savez, vous avez vu le film Duel de... C'est ça, si vous voulez. Hein ? Ouais, bon. Alors, bon, voilà. Et voilà. Et donc, elle a l'habitude de travailler avec les fournisseurs. Bon, ben, c'est classique. Et donc, je vous montre Beaver Valley, c'est là. Pittsburgh, c'est là. Bétis, je ne l'ai pas mis. Le labo là, de Westing, il est de l'autre côté. Il est là. Hein. Et c'est pas loin de Pittsburgh, là. Il y a 40 km. Hein. Et voilà la centrale de Shippingport. Alors, voilà la liste des compagnies qui ont fabriqué la centrale. Un point que je voudrais signaler, c'est ça, le Shift Rep. Shift, c'est l'équipe en anglais. Donc, le Rep, c'est le représentatif, le représentant dans chaque équipe, le représentant de Recover. Et il a obtenu deux hautes luttes, après des crises de nerfs absolument épouvantables avec Fléger, en disant, moi, c'est moi le concepteur, il y a quelqu'un qui est chez moi, s'il y a une connerie de faite, j'appuie sur le bouton stop. Et vous n'avez rien à dire. Alors ça, le gars de Duke & Light, il a eu du mal à avaler la pilule, mais Recover, il poussait très fort et il est arrivé. Heureusement, il n'y a pas eu d'incident majeur, mais il tenait toujours le système Recover. C'est moi le responsable, c'est pas la compagnie d'électricité. Si je vois qu'il y a une connerie, c'est moi ou mon représentant qui appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence. Important, hein. Donc voilà. Formation, toujours pareil. Hein. Et voilà un truc pour les médias. Donc le Eisenhower démarre la centrale fixe, donc de Shippingport. Alors il a une petite source de neutrons là. C'est une source polonium-beryllium. Hein. Bon, oui, je suppose que c'est bien protégé, enfin, c'est gentil. Puis il a un petit compteur Geiger, là, vous voyez, là, le tube, là. Puis, alors il le pose dessus, ça, c'est ça qui déclenche la réaction en chaîne. Et puis là, il y a il n'y avait pas d'ordinateur, enfin, il n'y avait pas d'écran à ce moment-là. Donc, il enregistre ça, puis il y a l'aiguille qui fait ça. Ah. Donc, M. Eisenhower, avec sa baguette magique, a démarré la centrale nucléaire. Voilà. Ça fait chialer dans les chaumières. Voilà. Alors, voilà la bande des joyeux drilles. Alors, le petit père Recover, c'est ce petit gringalet, là. C'est lui le chef véritable. Alors, voilà Strauss, c'est celui-là, le chef de l'AEC, hein, le faucon qui a lancé les bombaches sous la houlette de Truman. Ça, c'est Fléger, je crois. Oui, Fléger, donc c'est le PDG de Westinghouse. Puis celui-là, je ne sais plus lequel c'est. Enfin, Plowden, c'est le gars c'est l'anglais. Voilà la cuve. Alors, ça ressemble furieusement à ce que tout le monde connaît au Creusot. Hein. Voilà les dessins. Voilà. Voilà, alors le bâtiment des équipements DGV, il est pas pareil que maintenant, et c'est dans deux bidons cylindriques à axe horizontal, des deux côtés, c'est un truc à deux boucles. Hein. Voilà, vous voyez le plan de masse. Hein. Alors, il y a un problème là, c'est que vous savez comment on fait dans les centrales PWR, quand on fait un rechargement, on enlève le couvercle et puis on enlève. Mais essayez d'imaginer, vous êtes en plein Pacifique, vous devez faire un rechargement, pas terrible. Hein. Et surtout que la cuve, elle est dans la boîte. Hein. Donc il faut trouver un système pour faire ça. Alors l'idée, c'est d'avoir des systèmes qui permettent de faire un chargement uniquement par un trou central. Hein, et on met dans ce trou central ce qu'on appelle un initiateur qui est lui très hautement enrichi et qui démarre la réaction en chaîne. Et donc le reste étant essentiellement ce qu'on appelle la couverture, le breeder, parce que l'idée de faire de la surgénération existait dès le départ. Et donc tous ces phénomènes étaient connus déjà à Oak Ridge dès la fin du projet Manhattan. Voilà. Et un point hyper important, c'est celle-là. Le 26 avril 1955, Recover lui-même, après 6 mois de discutaillerie entre les différentes équipes, choisit la solution des combustibles dans des tubes en zirconium et avec des pastilles du O2. Après, des tas de solutions, avec avantages, inconvénients, les Anglais s'y sont mis, non, c'est con, machin, hein. Et c'est M. Rickover lui-même, c'était 50-50 hein, entre ces équipes, c'est lui qui a fait le choix. On est en 2018, tous les PWR sont toujours faits comme ça, et avec les mêmes dimensions. Merci M. Rickover. Voilà les éléments combustibles tels qu'ils étaient. Parce que si vous faites de la physique, alors là, c'est le départ entre les ingénieurs et les scientifiques. On dit qu'il faut qu'il y ait pas de, pour qu'il y ait un bon échange thermique, il faut que la partie qui génère la chaleur soit la plus mince possible pour qu'il n'y ait pas de gradient thermique trop fort. Donc on dit, ben, je fais un sandwich, c'est-à-dire je mets une petite lame d'uranium métal et puis je la gaine avec un métal de protection qui est du zirconium. Et donc c'est bien, il n'y a pas de choc thermique, c'est super bien. Par contre, pour fabriquer, bonjour les dégâts, hein, c'est un millefeuille, absolument pas possible. Et alors la solution avec les pilles et les pastilles, c'est pas génial du point de vue thermique et échange thermique, mais c'est industriel. Donc il a privilégié le réalisme industriel de l'ingénieur par rapport à la bonne solution idéale scientifique. Voilà. Rickover, c'est un ingénieur. Un ingénieur. J'insiste beaucoup. Voilà. Alors là, après, ça a servi un peu à faire tout un tas de simulations diverses et variées. Je ne rentre pas dans le détail. Voilà. Et donc, ça a duré. Vous voyez, je ne sais pas si j'ai la date, là. Donc, le cœur, vous voyez, ce qu'on appelle seed. Seed, ça veut dire la graine en anglais. Hein. Donc, c'est le machin qu'on met au milieu pour déclencher la réaction en chaîne. Et donc, il y a eu des simulations de breeders. Le breeder, c'est surgénérateur, je rappelle. Donc, on fabrique plus de plutonium dans la pile qu'on en a consommé dans la réaction de fission. Et donc, on amorce la pompe pour un système à la limite perpétuelle. Donc, c'est les années 50, hein, ça. Et donc, il y a eu la démonstration expérimentale que ce système fonctionnait. Donc, c'est pas le premier réacteur civil qui a commencé à produire de l'électricité dans le monde. À quelques mois après, c'est Calder Hall, en Angleterre. Parce que je rappelle quand même, alors ça vous venez le 19, les Anglais sont à l'origine de l'idée de la bombe atomique. Tout à fait initialement, dans la phase, disons, des deux ans où ça pédalait dans la choucroute en Amérique, c'est les Anglais qui ont un peu poussé à la chose. Voilà les dates de Shippingport, donc 57, hein, criticalité, le 2 décembre. 15 ans, jour pour jour, après la divergence de la pile de Fermi sous le stade de Chicago. Hein. Connexion Euro, 60 MW, c'est monté jusqu'à 200 MW, c'est mégawatts électriques, je crois. Hein. Et là, alors, voilà. Alors par contre, ce beau prototype, ça coûte 10 fois le prix des centrales. Alors oui, il y a une chose que j'ai oublié de dire. Pourquoi Duke & Light a accepté de faire ça? Parce que une compagnie d'électricité, c'est quand même pas des cow-boys. Hein, en disant, nous, ce qu'on veut, c'est de l'électricité, on veut pas faire de la R&D. Et pourtant, alors, il l'a fait parce que il y avait tout le temps des grèves dans les mines de charbon. Et c'est parce qu'il y avait des grèves dans les mines de charbon, il a dit, c'est génial le nucléaire, ça va me permettre d'éviter les grèves des mines de charbon. Il faudrait dire ça aux écolos aujourd'hui. Hein. C'est écrit hein, dans le flégère, là. Il a dit ça, ah, c'est génial, je suis indépendant des grèves dans les mines de charbon. FOAK, vous savez tous ce que ça veut dire, non? First of a kind, ça veut dire la tête de série en français. Voilà les caractéristiques techniques. Je vous laisserai rêver à ça le soir à la veillée. Hein. Voilà, alors ça c'est un planning général, si vous voulez, qui permet de voir les différentes centrales au niveau de la du calendrier. Et donc Shippingport, vous voyez, il est là. Le Nautilus, il est là. Et vous voyez les centrales qui sortent derrière. Alors, la transition vers le nucléaire, on arrive pas loin de la conclusion. Moi, j'ai presque tenu. Ouais. La transition vers le nucléaire, eh bien, elle s'est faite grâce à des adaptations, comme je vous ai dit, des règles de l'AEC, qui étaient de donner de plus en plus d'ouverture aux compagnies privées. Et donc, les vedettes, d'ailleurs, toutes ces compagnies, les quatre ici sont devenus des constructeurs de centrales nucléaires. Tout simplement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y avait la possibilité de prendre des brevets, puisque les conceptions de détails, c'était elles qui les faisaient dans leur bureau d'études. Et après, donc, si on prend des brevets, on peut céder des licences. Alors, pourquoi on a pu céder des licences? Tout simplement parce qu'il s'est passé quelque chose au niveau, en particulier européen et mondial. Premièrement, la fondation de l'IAEA, donc l'Agence internationale de l'énergie à Vienne, qui a été fondée en 1957. Donc, juste au moment où Shippingport commençait à produire. Donc, et là, tous les pays de l'époque, disons, nucléarisables, hein, c'est-à-dire pas l'Iran, pas le machin, ils n'existaient pas, hein, ont signé ces conventions. Euratom s'était fondé en 1958. Je rappelle qu'Euratom, c'est un traité qui est indépendant du traité de Rome, et donc qui s'est fait complètement en parallèle, qui a survécu à toutes les turpitudes des traités de Rome et des suivants. Et maintenant, je crois que c'est réintroduit plus ou moins d'une façon souterraine dans l'Union européenne, mais tout en disant on n'y touche pas. Et d'ailleurs, l'expérience montre que la coopération nucléaire entre tous les pays de l'Euratom a toujours très bien marché et marche toujours très bien. Et on n'a pas besoin de japper sur les toits, et ça marche toujours très bien. C'est-à-dire, pour vivre heureux, vivons cachés et bossons. Voilà. Et cadre favorable, donc, à l'octroi de licence. Je rappelle que la licence à Framatome, ça veut dire franco-américaine de l'atome, hein, donc 50% ou 51%, je ne me souviens plus, de Westinghouse et le reste pour Schneider. Hein. Pendant 10 ans, ça a été un petit bureau d'études qui était à Paris où il y avait 10 personnes. Hein. Donc c'était une coquille vide, on va dire. Et ça n'a démarré que quand il y a eu les centrales belges qui se sont faites, donc Sénat et puis Tihange et Doul. Les premières. Mais ça s'est fait à la fin des années 60. Hein, donc 10 ans après la cession de cette licence. Alors, il faut savoir aussi que cette licence, les gens qui étaient là, même les creusotins, je peux dire, hein, ils sont tous là, hein, ont regardé ça comme un œuf qui a trouvé un couteau, quoi. Une poule qui a trouvé un couteau. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et en fait, c'est le représentant américain de Schneider Electric qui, lui, savait un petit peu ce qui se passait dans les circuits, qui a cassé les pieds à Charles Schneider en disant « Il y a un truc qui va sortir, là, qui est vachement bien, il faut que Schneider soit dans le coup, machin, donc moi, je vais vous arranger ça et tout et tout. » Et c'est là qu'il a fait un lobbying, alors que tous les branches, et Dieu sait si la constellation des Schneider, à l'époque, elle était variée, électricité, c'était très diversifié, et je me souviens plus, enfin bon, vous savez tout ça par cœur, enfin, c'était très compliqué. La première fois qu'il y a eu une réunion pour dire mais qu'est-ce qu'on peut faire, machin, tout le monde se regardait en chien de faïence en disant qu'est-ce qu'on va faire avec ce bazar, quoi. Et donc, il a fallu un temps d'assimilation, j'allais dire psychologique, de cette licence, si vous voulez. Bon, après, c'est une autre histoire, c'est le nucléaire français, qui ne vient pas que des États-Unis. Hein. Il y a eu une dynamique en parallèle propre, qui était initiée par Joliot, hein, de faire uniquement des choses qui étaient pour au premier degré étiquetée pour la bombe, hein, faut pas se cacher derrière son crayon, fabriquer du plutonium. Donc j'ai un G2 à Marcoule, et puis accessoirement, ben, tout de suite après, de faire des... Les, de, ça s'appelle comment le premier de chinon, le truc est dans la boule, c'est... Hein? Oui, mais le premier, c'était... je me souviens plus du sigle. Hein? Celui qui était dans la boule. EDF1, voilà, tout bêtement, oui. Et après, c'est les deux, il y a les deux chinons, et après, il y a eu les deux Saint-Laurent-des-Eaux. Il y a eu Buget.
Ça manquait de s'appeler.
Oui, parce que c'est juste à côté. Donc ça, c'était une dynamique interne au système français. Hein, donc après, et contrairement à toutes les attentes, eh bien, le nucléaire français du CEA n'a pas été validé par De Gaulle pour des tas de raisons. Mais ça, c'est une autre conférence. Et donc, on a adopté les systèmes américains. Et il y a sûrement des contreparties géopolitiques qui sont cachées derrière tout ça. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Et donc, on a arrêté le graphite gaz français et on a fait du PWR américain qui est devenu français maintenant et dont le dernier avatar, c'est l'EPR. Voilà. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions à poser ?
Bien, ben merci. On n'a pas été déçus de l'histoire. Une ou deux questions peut-être avant qu'on se quitte et que je vous parle de la prochaine conférence.
Donc, n'hésitez pas si vous voulez des détails plus précis, c'est tous les noms, les caractéristiques, donc tout ça c'est dans le plan, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Donc, si je veux faire un résumé de l'exposé, c'est ça s'est passé dans la douleur et grâce à la ténacité absolument extraordinaire d'un seul homme contre tout le système. Contre tout le système. Ça serait fait d'une manière ou d'une autre, mais beaucoup plus doucement. Je rappelle quand même que l'EPR, le premier trait du design général, c'est en 1991. On a lancé la chose. Malheureusement, à Aculvoto, en 2003, parce que Mme Lauvergeon a dit « ça ne peut plus durer comme ça, il faut qu'il y ait une réalisation pour qu'on ait une référence », mais le faire dans, à l'autre bout du monde et puis dans des conditions absolument impensables, c'était un pari qui était trop risqué d'ailleurs maintenant.
C'était pas du cos plus phi.
Oui, c'était pas du cos plus phi. Donc voilà. C'est Sarkozy qui a lancé l'EPR français après. Hein, mais il faut bien reconnaître que la bureaucratie EDFienne a traîné des galoches pendant 15 ans. Pour que ça se fasse pas, parce qu'ils avaient d'autres chats fouettés, parce qu'ils avaient avalé la gestion de l'ensemble du parc existant, et c'était un poids qui était très lourd. Et donc, c'est bien de faire des grandes giclées comme ça, en disant, ben, ça y est, je couvre de centrales nucléaires toute la France. Une fois que c'est fait, comme on le fait tout en même temps, ben, après, il y a un trou dans le programme. Et donc, les bonnes méthodes, c'est de le faire d'une façon... Alors, c'est facile à dire comme ça. C'est de le faire d'une façon continue et d'une façon étagée, de telle façon qu'il n'y ait pas de rupture de charge et que les équipes restent en place. Et que je rappelle quand même que la durée de vie d'une centrale nucléaire, c'est plus long qu'une carrière d'ingénieur. Donc, celui qui a lancé une centrale qui a participé, on en fait partie, hein, il est mis au rencard, ou sinon il a disparu des circuits, avant que la centrale qu'il a pondue soit arrêtée et démantelée. Donc c'est quand même un peu unique que dans les cycles industriels, si vous voulez. Hein. Voilà, donc ça s'est fait, on en a tiré des bénéfices, je crois pouvoir le dire. Vous avez compris, moi j'ai fait la moitié de ma carrière dans le nucléaire, même les deux tiers, donc je connais quand même un peu le sujet. Mais je suis toujours convaincu, je suis un militant, je suis un nucléocrate, comme disait Jean-Claude Lévy, hein, et je revendique, voilà, il n'y a pas de problème.
Oui, j'aurais une question, une remarque. La question, c'est la suivante. Il y a un nommé Weinberg,
oui,
aux États-Unis, qui a développé pour l'Air Force un réacteur pour mettre sur un avion,
oui,
qui était à ma connaissance au sel fondu,
oui,
au MSR. Puis après, parce que ça ne produisait pas de plutonium, mmh, on a tout bloqué.
Oui.
Puis aussi parce qu'il y avait les missiles intercontinentaux.
Oui. Qui, oui.
Voilà. Mais certains Américains disent que ce Weinberg, c'est le père des PWR. Alors ma question, est-ce qu'il y a eu une connexion entre Ricover et lui ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sûrement. Parce que si vous voulez, d'une façon générale, c'était déjà le cas dans le projet Manhattan, mais d'une façon générale, tout ça, il y avait une volonté que, au niveau scientifique, les gens se parlent. Hein. Les gars comme Fermi, comme Oppenheimer et tout ça, étaient dans toutes les commissions, ils se voyaient tous, ils se connaissaient tous, et donc, c'était pas cloisonné. Les militaires ont essayé de mettre les gens dans des casiers, mais ils y sont pas arrivés. Et d'ailleurs, le fait qu'ils y soient pas arrivés a été un facteur de succès. Voilà.
J'avais une remarque. Vous avez dit que les Rosenberg étaient coupables.
Oui.
Moi, j'ai cru comprendre que c'est le mari qui était coupable.
Oui.
Et la femme n'était pas coupable.
Oui.
La femme, elle est exécutée par chantage pour faire craquer le mari.
Peut-être, oui. Alors, le dossier, je le connais mal, hein, mais en fait, eux n'étaient pas des espions au sens direct. C'est-à-dire.
Ils ont trahi leur pays.
Oui, mais il n'était pas en compte. Klaus Fuchs, lui, c'était.
Oui, oui.
Et même mieux, c'est lui qui a fait le calcul des lentilles à implosion de la bombe de Nagasaki. Non seulement il n'était pas prêt à copier les trucs, c'est lui qui a fait les calculs, donc il était à la source. Hein. Et c'était d'ailleurs après, il a été grand chef dans le CEA anglais. Jusqu'à ce qu'il avoue qu'il était un espion, donc là après on l'a débarqué bien sûr, mais il a fini sa carrière aux États-Unis, il a été prof, il a pas été en tôle jusqu'à la fin de sa vie, donc il a fini voilà, ben oui, mais enfin c'était le maccartisme aussi, il faut remettre ça dans le contexte de l'époque, hein.
D'autres questions? Bon, il nous reste à remercier à nouveau.
C'est un plaisir parce que si vous voulez raconter ce type d'histoire, c'est dommage que ce soit si mal connu, si vous voulez.
Oui, donc la prochaine conférence organisée par l'Académie aura lieu le 19 avril. C'est notre astronome favori qui fera cette conférence, Jean-Claude Merlin, Une première, je dirais, on aura en direct les images d'un télescope situé en Australie. Ça veut dire que la conférence ne se fera peut-être pas dans les locaux de la Messe-Mibourdon, mais ce sera le studio autre part au Creusot. Enfin bref, tenez-vous au courant par la presse pour savoir où aura lieu cette conférence. Alors, on pense que l'annonce de l'Observatoire du ciel en direct à partir des espaces de l'Espagne fera venir beaucoup de monde, donc on fait attention à la taille de la scène. Voilà.